L'Amérique. Keep America great. Avec Valérie Beaudoin.
7h39 minutes. Bonjour Valérie Beaudoin.
Bonjour Paul.
Valérie, vous avez entendu Richard il y a un instant. Oui. New York et la ville de New York demeurent encore l'épicentre de cette pandémie. Les États-Unis battent tous les records et on ne devrait peut-être pas utiliser ce terme parce que je trouve ça réducteur un peu, battre des records, mais la réalité, elle est là. Près de 1500 Américains sont morts au cours des 24 dernières heures. On n'avait jamais vu un total semblable. Quoique, je dois vous le dire, la France, ça a été effroyable au cours des 48 dernières heures. À tout le moins, on se tourne maintenant vers des décisions qui sont prises, Valérie, à Washington, mais qui ont des conséquences directes pour le Canada et le Québec notamment.
Oui, exactement. La dernière décision qui aura de fortes conséquences. Je vous ai parlé, ça fait à peu près deux semaines qu'on parle du Defense Production Act, qui est en quelque sorte une loi aux États-Unis qui donne des pouvoirs un peu plus intenses au président américain en temps de guerre, entre guillemets. Ça date de la Corée, de la guerre de Corée. Et finalement, c'est qu'il peut le dire à une compagnie, ben écoutez, tout ce que vous allez produire, ça va être pour les États-Unis uniquement. Et c'est ce qu'il a décidé de faire, d'appliquer ce Defense Production Act pour la compagnie 3M. Et Paul, je t'entendais parler de ça déjà. Ce que ça implique, c'est que finalement, tous les masques qu'on va produire par cette compagnie américaine, qui était destinée au Canada ou au Québec, ben écoutez, finalement, on ne pourra plus en produire pour le Canada et non plus pour l'Amérique latine. Alors, on cesse les exportations de ces masques et selon des informations, je voyais entre autres Radio-Canada qui a fait un reportage là-dessus, on aurait commandé au Québec l'équivalent d'une année complète de masques. On ne sait pas ce qui va arriver avec cette commande-là. Alors, c'est pour vous dire à quel point notre voisin et cette relation avec lui, ça a des répercussions ici.
Oui, parce que, effectivement, vous l'avez dit, c'est tout à fait vrai, ça. Le Québec avait commandé, notamment au niveau des fameux masques N95. Ce sont des masques, évidemment, qui sont destinés directement aux médecins, aux infirmières, au personnel soignant. Mais, évidemment, là, la question la plus pressante au Québec, c'est aurons-nous suffisamment de masques, non pas dans les prochains mois, dans les prochains jours? Et ces commandes, déjà, Valérie, allaient mettre du temps avant de parvenir au Québec. Tandis que là, on sait une chose, elles ne viendront pas. C'est-à-dire, les livraisons ne se feront pas à partir des États-Unis.
Et la compagnie de fourniture médicale a vraiment mis en garde le gouvernement américain en disant, écoutez, je comprends que vous preniez cette décision-là, mais il y a un danger pour que le Canada et que d'autres pays décident d'arrêter eux aussi des exportations de matériel médical aux États-Unis, qu'ils décident de faire la même chose. Et il rappelle, 3M, qu'on est dans une crise humanitaire, qu'entre autres, les États-Unis ont besoin de respirateurs artificiels et ce serait pas un bon moment pour, comment dire, avoir des relations un peu plus glaciales avec nos alliés et qu'eux décident aussi de ne pas exporter de matériel médical. Il y a aussi le gouvernement canadien qui a rappelé à quel point aussi il y a des médecins et des infirmières qui habitent au Canada, donc qui sont canadiens et qui traversent la frontière à tous les jours pour aller travailler dans des hôpitaux américains et qui eux aussi donc sont comme en quelque sorte des ressources canadiennes pour aider les Américains. Alors, on a vraiment cette relation-là de proximité et c'est pas sans rappeler la menace de Trump, je crois, la semaine dernière qui disait peut-être mettre même des troupes à la frontière avec le Canada pour éviter que les gens traversent aux États-Unis. Alors, vous voyez comment les tensions, ça continue un peu d'augmenter de semaine en semaine.
Et ce qui n'a pas aidé, c'est que des autorités comme le maire de New York, Bill de Blasio, qui a pris les devants, lui, et a recommandé aux New-Yorkais, aux citoyens de sa ville, d'emporter des masques. Pas nécessairement le fameux masque, appelons-le le masque professionnel N95, mais à tout le moins de porter un foulard, de se fabriquer un masque ou trouver. Donc, le président Trump a dit que lui ne le ferait pas, mais qu'il encourageait les gens qui veulent le faire à s'en procurer, ce qui va réduire encore plus les quantités de masques, disons, non professionnels, les masques plus rudimentaires, là, comme celui de Richard Châteauvert, à 3 $ l'unité, ça va créer encore une rareté plus grande pour l'exportation de ces masques.
Oui, exactement. Il y avait déjà du vol de matériel médical. Il y avait déjà aussi plusieurs gens qui essayaient de se procurer des masques quand ce n'était pas nécessaire aux États-Unis. Donc, c'est sûr que ça va exacerber tout ça. C'est le CDC, donc qu'on peut traduire par le Centre de contrôle et de prévention des maladies américains, qui est vraiment l'autorité en matière de santé aux États-Unis, qui a dit, écoutez, on recommanderait de pouvoir mettre, comme vous l'avez dit, là, quelque chose qui peut être artisanal dans le visage. Ça peut être un foulard, ça peut être un masque qu'on a fabriqué. Mais ça, c'est surtout dans des endroits endroits, peut-être comme New York, justement, où quand on va à l'épicerie, où la distanciation sociale, le fameux 2 mètres qu'on veut avoir entre deux personnes, ben c'est difficile de le faire. Et ça, c'est parce qu'il y a des nouvelles études qui, et là, je ne rentrerai pas dans le médical, mais aux États-Unis, on dit que finalement, ça pourrait être pas seulement les fameuses gouttelettes qui peuvent contaminer quelqu'un d'autre, mais seulement en parlant, il y aura un danger de contamination. Alors, il va avoir vraiment un effet de ces nouvelles procédures qui sont mises à l'avant.
Et la France, qui, je le disais, est terriblement éprouvée ces jours-ci. Là, ils sont dans un pic absolument incroyable. En France aussi, on commence à penser à recommander aux gens de porter quelque chose au visage. Quand je dis quelque chose, pas nécessairement un masque, mais de porter un châle, un foulard directement. Et la grande question, Valérie, et on sent qu'il y a une certaine tension. En tout cas, elle doit exister dans le bureau ovale lorsque le président américain réunit son équipe d'urgence entre lui et le docteur Anthony Fauci, oui, qui est vraiment l'expertise scientifique et médicale. Et lui se demandait jeudi dernier, donc il y a 48 heures déjà, pourquoi est-ce que Washington ne demandait pas à tous les Américains de demeurer en confinement?
Oui, exactement. Il s'est fait poser la question à CNN dans une entrevue. Je vais vous laisser entendre sa réponse qui est assez claire. Alors, on lui a demandé carrément, est-ce qu'il ne serait pas plus logique d'exiger que tous restent à la maison? Voici la réponse d'Anthony Fauci.
If you look at what's going on in this country, I just don't understand why we're not doing that.
Et là, c'est celui qui est à côté de Donald Trump, là, directement, oui, à tous les jours. Le docteur Fauci, comme je disais tout le temps, poliment, avec sa voix un peu éraillée, a tenu des propos des fois à 180 degrés par rapport à ce que le président venait de dire, en disant, oui, moi je vous donne mon expertise professionnelle, scientifique, et vous faites ce que vous voulez avec, mais il dit, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à tous les Américains de demeurer en confinement?
Oui, il dit ne pas comprendre pourquoi c'est pas une décision, puis il dit je veux pas rentrer dans la politique de ce que c'est la prérogative des gouverneurs, est-ce que c'est le fédéral qui peut demander ça, mais ce qu'il a dit, c'est que finalement avec les données qu'on a actuellement, pourquoi est-ce qu'on demande pas à tout le monde de rester à la maison et pas juste dire que l'Alabama et le Missouri, c'est les derniers États qui ont décidé d'avoir cette politique dont reste à la maison, on sort uniquement pour des nécessités. La Californie, je vous rappelle, qui était le premier État à demander ça, donc on est à plus de 40 États américains qui ont décidé de prendre ces mesures-là. Donc, c'est plus la grande majorité de la population aux États-Unis. Et d'ailleurs, Paul, peut-être un petit clin d'œil à Anthony Fauci. Le président, hier, s'est fait demander en point de presse pourquoi M. Fauci n'est pas encore avec vous parce qu'il n'est pas toujours là. Alors, est-ce qu'il y a une tension entre vous deux? Il s'est fait poser la question puis il a dit, écoutez, à chaque fois que vous me posez cette question-là, je vous réponds toujours la même chose. Tout va bien, tout se passe bien entre Anthony Fauci et moi. Il n'y avait juste pas besoin d'être présent.
Il l'appelle affectueusement Tony.
Oui.
Valérie, ne manquez pas notre entrevue avec Marie Poupard. Elle vit en Floride, évidemment, journaliste, et ça fait longtemps qu'elle vit en Floride. Et le gouverneur de l'État de DeSantis, c'est un admirateur absolument sans bornes du président américain. Il a tardé, voilà un gouverneur d'État qui a tardé avant de mettre en place des mesures. Il a laissé aller le spring break. Vous savez, ces étudiants qui envahissent en congé, là, les plages. Écoutez, Marie me disait, et elle va nous le dire à 8h30, il y a des endroits encore où il y avait des gens sur la plage à moins de 2 mètres de distance hier en Floride.
Ben oui, même la semaine dernière, je pense que je t'ai montré, Paul, la photo. Il y avait une plage, un county en Floride interdisait d'y aller et l'autre county non. Alors les gens, il y avait vraiment une ligne délimitée dans sur la plage. Les gens se rassemblaient d'un côté tandis que l'autre côté de la plage était complètement vide. Alors il y avait vraiment des disparités aussi à cet endroit-là.
Alors vous aussi, Valérie, dès que vous avez des nouvelles en provenance des États-Unis, évidemment, on vous invite à participer à l'émission tout de suite. Merci, Valérie.
Merci, Paul.
Thérèse, juste avant d'aller à la pause, je vais pas enlever du temps au retour de Gilles Payet, notre ministre des Transports honoraires. On a beaucoup de commentaires de nos auditeurs et auditrices en ce samedi matin.
Oui, effectivement. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'à Saint-Jérôme, les autobus sont assez tranquilles, mais il y a encore des passagers qui embarquent juste pour faire un tour, peux-tu croire?
Attendez,
Un tour d'autobus.
Oui. Je comprends qu'on n'a pas beaucoup d'activités ces temps-ci.
Oui.
Mais il y a des gens qui font un tour de bus.
Oui, monsieur, à Saint-Jérôme. Un tour d'autobus à Saint-Jérôme. Donc, c'est le nouveau tourisme. Il y a Mario qui nous dit « Je suis confiné chez moi comme la plupart des gens responsables. Et hier, j'ai eu de la belle visite sur mon terrain près de la rivière. Deux coupes de bernache et trois beaux colverts. Ça m'a donné un peu d'espoir en ces moments que je trouve de plus en plus difficile d'être, évidemment, c'est d'être éloigné des siens. Merci, soyez prudents. » Et il y a quelqu'un qui nous dit aussi, pour les policiers, tu sais, envers les récidivistes, il existe un article de la loi du Code criminel du Canada sur la nuisance publique. Hein? On est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de 2 ans, quiconque commet une nuisance publique. Ben, je trouve que quand tu mets la vie en danger, la sécurité ou la santé du public, c'est pas mal ça. Alors, lui suggère que les policiers soient qui interviennent davantage, évidemment, plus rigoureux. Enfin, rigoureux dans le sens, et c'est difficile parce que on sait, il y a eu des discussions là-dessus cette semaine. Est-ce que les policiers devraient intervenir plus solidement? Alors voilà, donc il y a des gens qui interviennent là-dessus.
Alors, on va en reparler demain. J'espère parler à Mme la mairesse, Valérie Plante. Ça devrait être autour de midi. C'est une question ça, que je vais poser à Mme Plante parce que je sais qu'elle est extrêmement préoccupée parce qu'à Montréal, évidemment, on a vu une flambée de cas et ça continue, ça n'arrêtera pas. Et on doit se poser la question, est-ce qu'on doit aller encore plus loin? Une épidémiologiste a suggéré hier que Montréal soit placé en isolement total pour une période. Elle n'a pas dit combien de temps, mais en tout cas. Et ça pose la question du transport en commun. Hier, cependant, j'ai vu une statistique de la part de la STM en disant qu'il n'y avait pas eu de nouveaux cas associés à l'utilisation du transport en commun au cours de la dernière semaine. Je ne sais pas d'où on tient exactement ces statistiques, mais Thérèse...
Comment on peut savoir ça?
Ben, exactement. Est-ce qu'on a tenu des statistiques rigoureuses sur le déplacement des usagers du métro ou des autobus? Je ne sais pas. Mais on va aborder cette question-là demain. Et c'est certainement pas dans le but de dire fermer le transport en commun à tout prix. Non, c'est juste que ça ne fait pas de sens. Si vous êtes en mesure de prendre en toute liberté le transport en commun, vous devenez une personne également dangereuse. Alors, on peut pas dire aux gens, si vous êtes dans un parc, vous êtes une personne dangereuse. Si vous faites du jogging, vous êtes dans une personne dangereuse pour contaminer d'autres personnes. Et puis, d'arriver et laisser entière liberté de mouvement, ne serait-ce que dans un wagon de métro, ça fait pas de sens. Et c'est la même chose pour le principe des aéroports et des avions en vol. Je vous ai donné cet exemple d'un Américain de 42 ans qui, simplement parce qu'il est passé par un aéroport américain, ils en ont encore beaucoup de passagers, il y a beaucoup de vols, a attrapé la maladie et est mort en 48 heures. Donc, il faudra avoir un discours conséquent, c'est ça que je veux dire. Et on va parler de tout ça, donc, demain. Et Thérèse, on va passer... Est-ce que Gilles Payet est là? Ah! Alors, parler à Gilles Payet un petit peu plus tard. Sabrina Rivet, pour l'instant, à 7h51.
Tout à fait, Paul. D'abord, j'aimerais vous dire les derniers bilans au niveau du Canada. On est à plus de 12 000 cas répertoriés à travers la province, à travers le pays. Si on se tourne vers le Québec, eh bien, vous le savez, 25 nouvelles victimes, portant le total à 61. On est maintenant rendu à 6 100 cas. Alors, vous le savez, Paul, on est quand même chamboulé avec toutes ces nouvelles mesures, le nombre de gens atteints de la COVID-19 qui augmente au Québec. D'ailleurs, il y a le service de police de Montréal qui s'apprête à affecter 200 policiers à la patrouille. Ces policiers qui seraient notamment responsables de l'application interdisant les rassemblements. C'est ce que nous apprend à tout le moins le Journal de Montréal ce matin. Et j'aimerais vous parler également, Paul, que ce n'est peut-être pas une bonne idée de mentir aux policiers. Et là, je vais vous raconter un événement qui s'est produit cette semaine. On va se transporter en Outaouais, plus précisément à Gatineau. Cette semaine, lors d'une intervention policière, il y a une femme de 21 ans qui a affirmé qu'elle était atteinte de la COVID-19. Elle aurait dit avoir reçu un résultat positif à la suite d'un test de dépistage effectué. La police de Gatineau, par la suite, qui a réagi rapidement, elle a mis des policiers en quarantaine. Finalement, après enquête, le SPVG a appris que la femme n'avait jamais passé de test et qu'elle n'était donc pas atteinte de la COVID-19. Alors, le service de police de Gatineau qui a soumis une accusation criminelle d'entrave à un agent de la paix au DPCP. Alors, c'est simplement pour vous montrer là, que c'est vraiment important de dire la vérité.
Ouais.
Alors, si on n'est pas atteint de la COVID-19, là, on ne peut pas utiliser cette excuse-là, en fait, et donner ça aux policiers parce qu'en fait, là, il faut faire après des vérifications. C'est-à-dire qu'il faut mettre des policiers en quarantaine. Alors, il y a plein de décisions qui s'en suivent par la suite. Alors, ça, c'est un cas qui nous démontre qu'il faut vraiment pas, en fait, mentir aux policiers, Paul.
Oui. Cette semaine, à Londres, un homme a été arrêté, fait face à de graves accusations. Il a volontairement, enfin, il a fait de tousser en direction d'un policier, comme si c'était une arme, en disant « Je suis infecté, voici ce que je pense de vous ». Il n'avait pas la COVID-19, il a été appréhendé. Alors, il est 7h54, on va s'arrêter et on va écouter les informations de 8h. Et ensuite, Gilles Payet, du ministère des Transports.